savez, quand on fait une offre, on pense que le prix qu'on propose est un très bon prix. Et donc, c'est, de mon point de vue, une offre tout à fait attirante.
Ce que nous faisons aujourd'hui, hein, c'est regarder cette offre, hein, l'analyser. Elle a des éléments qui sont attractifs pour nous, sa simplicité, sa rapidité, le prix. Et là, franchement, le compte n'y est pas.
Bataille dans l'eau et les déchets, voilà, on l'a, notre feuilleton de la rentrée. Alors, je vous fais le pitch. L'acheteur, c'est Veolia, Antoine Frérot, celui qui trouve que, franchement, il offre un bon prix. Le vendeur, c'est Engie, Jean-Pierre Clamadieu, celui qui veut faire monter les enchères, normal. Bon, et la proie, vous ne l'avez pas entendu, c'est Suez. Ses dirigeants, mais aussi ses syndicats font non, de la tête. Veolia Suez, le numéro 1 mondial qui veut manger le numéro 2. Ce mariage, ils en ont déjà parlé. Hein. C'est un des serpents de mer du capitalisme français. Mais bon, un historique de 140 ans de rivalité entre fleurons français, ça ne s'efface peut-être pas comme ça. Alors comment ça va se finir, ces envies de convoler, pas partager? Je ne voudrais pas spoiler, mais disons que souvent, dans un conseil d'administration, c'est finalement la taille de la bague, hein, qui va créer l'attachement. Pas forcément ensuite, d'ailleurs, le succès de l'union. Attention, pour autant, je ne veux pas dire que le suspense ne reste pas entier. Il y a un gros chapitre politique. L'État, l'actionnaire du vendeur, est plutôt pour. En revanche, est-ce que les maires vont donner de la voix? Et oui, dans le projet, en France, l'activité eau de Suez serait vendue à un fonds d'investissement français. Voilà quand même 14 millions de clients qui devraient se sentir concernés par tous ces épisodes.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue, c'est le Magéco, samedi 5 septembre. La réalisatrice s'appelle Juliette Gou, l'attachée de production c'est Valentin Pérez. Et ce matin, à la console, Grégory Wallon est avec nous. Les débatteurs aussi sont dans le studio 521, assis à mes côtés. Laurent Bigorgne, le directeur de l'Institut Montaigne. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Et bonjour à vous, Christian Chavagneux, d'Alternatives Économiques.
Bonjour à tous.
Bon alors, on va le suivre évidemment, notre feuilleton Veolia-Suez, mais le gros dossier ce matin, c'est quand même ce plan de relance. Ça y est, on a les détails. Il faut les décortiquer. Est-ce que les choix du gouvernement sont pertinents? Où nous emmènent-ils? Eh bien, ce sera votre débat dans une poignée de secondes. Ce matin, on s'intéressera aussi à cette autre centaine de milliards. Oui, cette épargne constituée par les Français depuis mars. Et cette épargne est tout aussi importante pour relancer l'économie. Vous entendrez le reportage de Claire Chaudière. Et puis, qu'en pensent les principaux concernés de ce plan de relance? Ce samedi, un industriel et notre invité, c'est le président de Sanofi en France, Olivier Bogillot, sur France Inter, ce sera à 9h45. Elle est déjà là, c'est Sandrine Foulon. Bonjour Sandrine.
Bonjour Alexandra.
Ce samedi, vous répondez à Clément.
Oui, une question sur ces dirigeants qui mettent leur entreprise en faillite et qui peuvent leur racheter, Camailleux, Orchestra.
On a vu ça dans l'actu, oui.
Ouais, ça commence à faire beaucoup et Clément se demande si c'est pas une prime au mauvais gestionnaire.
Est-ce que c'est bien normal? La réponse de Sandrine Foulon, ça sera juste avant 10h. Mais tout de suite, le débat, alors 100 milliards, pour qui, pourquoi?
Trois grands axes. Le premier d'entre eux est la transition écologique.
Jean Castex.
Deuxième axe, un plan de réarmement industriel pour la France. La baisse des impôts de production, la relocalisation de certaines filières stratégiques.
Premier ministre.
Le troisième axe visera à renforcer la cohésion sociale et territoriale. L'activité partielle de longue durée. La formation et l'emploi des jeunes.
Yves Verrier.
On entend des chiffres astronomiques, hein. L'argent coule à flot d'une certaine manière vers les entreprises.
Secrétaire général de Force Ouvrière.
Ça fait beaucoup, c'est nécessaire, hein. Encore une fois, il faut absolument qu'on préserve l'emploi. Mais jamais ça n'est conditionné à l'emploi, jamais ça n'est mesuré, jamais ça n'est contrôlé, a fortiori pas sanctionné.
Et évidemment qu'elle soit responsable sur le plan écologique et sur le plan social. Mais il ne peut pas y avoir des conditionnalités impossibles sur chaque aide.
Éric Woerth, député Les Républicains, président de la Commission des Finances.
Parce que quand vous avez un malade en réanimation, vous ne lui dites pas « je vais te réanimer », mais à condition que. C'est un peu le cas pour les entreprises françaises, qui pour un certain nombre sont en train de fermer.
C'est ce qu'on avait demandé globalement.
Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF.
Je pense qu'il y a deux volets importants. Il y a un volet opérationnel immédiat, c'est les primes à l'embauche pour les jeunes, c'est la baisse des impôts de production. Ce qui est plus complexe, c'est tout le volet de transition, le financement des transitions écologiques, digitales, les appels à projets. Parce que là, je pense qu'on va manquer de projets.
Vous savez, ce plan de relance,
Laurent Berger,
pour dire les choses telles que je le pense, il est nécessaire.
parce qu'il y a un effet blast pour dire voilà, on essaye de se ressaisir dans l'année qui vient et le plus vite possible.
Secrétaire général de la CFDT.
C'est très clairement une réponse conjoncturelle. Ça ne nous inscrit pas dans un autre modèle de développement économique, un autre modèle de société tel que je l'appelle de mes voeux.
Christian Laurent, je vais vous dire ce que j'ai noté dans la bouche du gouvernement parce que ça vaut toujours le coup de s'arrêter sur les éléments de langage. Alors à propos de ce plan, 2020, c'est 3,6 fois le plan de 2008. C'est mieux que l'Allemagne, c'est un tiers pour la demande, bon ça veut dire les ménages, deux tiers pour l'offre, ça veut dire les entreprises. Notre priorité absolue, dit Jean Castex avec ce plan, c'est l'emploi. Ce plan nous fait basculer dans l'écologie de demain. Voilà ce qu'en dit Barbara Pompili, la ministre de la Transition. Alors vous, Laurent Bigorgne, comment est-ce que vous présenteriez ce plan de 100 milliards ?
On va faire quelque chose en trois parties, mais très rapide. D'abord, c'est vrai que c'est un plan massif. C'est deux fois le budget de l'éducation nationale. C'est gros, et c'est d'autant plus gros que ça vient après énormément de mesures qui ont déjà été prises sur le plan budgétaire à la mi-année. Et donc, c'est un plan qui vient, il faut pas oublier, s'ajouter à plein d'autres choses qui ont déjà été faites. Première chose. Deuxième chose, c'est vrai, c'est un plan qui est plutôt du côté de l'offre. C'est normal.
Hein. Massivement du côté de l'offre.
Oui,
vous dites plutôt, c'est...
Ou massivement, on pourra en discuter, mais qui est du côté de l'offre, allez, disons-le comme ça, tout simplement parce que c'est l'offre qui s'est effondrée. Et qu'il y a un risque, c'est que si l'offre s'effondre, évidemment, on va entrer dans des cercles qui sont non vertueux. Mais j'ajoute un troisième mot ce matin. Manifestement, c'est un plan populaire. Au sens où les premiers sondages dont on dispose, j'ai regardé Odoxa, Le Figaro hier.
7 Français disent, sur 10?
Bah oui, 7 Français sur 10, c'est pas rien. Estiment que Jean Castex a proposé un bon plan de relance. Ils approuvent, ce que je trouve intéressant, dans la même proportion, cette répartition un tiers de tiers. Hein. Et puis, ils pensent, pour presque 65%, donc on est toujours dans les mêmes eaux, que le plan va bien protéger les entreprises. Donc je trouve que c'est intéressant comme premier thermomètre.
Ben, si on pense que la confiance, en effet, a un rôle sur l'économie,
oui,
c'est intéressant.
Exactement.
Christian Chavagneux, vu votre sourire à la présentation de ce plan, alors vous, vos éléments de langage sur le plan, c'est quoi ?
Le gouvernement nous a fait un super plan com. Hein, il nous a dit le montant, c'est exactement ce qu'il faut. Non, c'est insuffisant. Il y a un bon équilibre offre-demande sur le deux tiers à tiers. Moi, je pense qu'il y a plus de demandes que ça même. Mais c'est pas évident que ce soit bien équilibré. C'est très écologique, c'est complètement incohérent sur le plan écologique. C'est prépayé à 40% pour l'Europe, c'est loin d'être fait. Donc c'est vraiment de la com pour l'instant.
On va s'arrêter sur les détails. Alors, la question de fond, est-ce que c'est... Vous dites, Laurent, que les Français ont confiance, enfin visiblement d'après les sondages. La question de fond, c'est est-ce que ce plan va nous sortir du pétrin ?
Alors ça, c'est la question importante. Là aussi, il faut prendre, au fond, la cible du plan. La cible du plan, c'est théoriquement retrouver assez rapidement un niveau d'activité économique qui était celui d'avant le Covid, et puis sauvegarder le maximum d'emplois. Alors, si on reste avec ces deux objectifs en tête, on regarde du côté des ménages. Je pense qu'il y a tout un volet du plan qui est très réussi, c'est celui qui touche à l'emploi. Il y a sur la formation, pour les jeunes, pour la sauvegarde des emplois, énormément de choses qui devraient contribuer à atténuer les craintes des ménages. Maintenant, ce que nous dit l'INSEE dans ses enquêtes, c'est intéressant, c'est que les ménages anticipent quelque chose qu'on voit pas nous quand on regarde l'activité économique. Les ménages anticipent une augmentation des prix, alors qu'on est plutôt en ce moment dans un risque de ce qu'on appelle une déflation.
On voit quand même un petit peu que ça, au niveau de la grande distribution, par exemple, oui, on voit qu'il y a une guerre des prix.
Oui, mais je trouve que, si vous voulez, c'est toujours la même chose, la perception de l'inflation, c'est pas nécessairement la réalité économique. Donc de ce point de vue-là, si on attend quelque chose de très efficace, de très rapide, on reste un peu sur sa fin du côté des ménages. Deuxième chose, du côté des entreprises. Je pense qu'effectivement, on essaye de porter remède à ce qui est le plus problématique, c'est l'effondrement de l'investissement. Mais il faut aussi pouvoir restaurer la productivité. Donc, il y a des choses qui vont être intéressantes. Moi, j'approuve ça et je pense que ce sera une différence fondamentale ou en tout cas sur laquelle on pourra dialoguer avec Christian, notamment, évidemment, la baisse des impôts de production. J'aurais aimé des dispositifs beaucoup plus rapides sur l'investissement. C'est-à-dire que j'aurais aimé, par exemple, et on avait proposé avec Éric Chanet, l'économiste, on avait proposé une subvention massive à l'investissement en disant, voilà, il faut qu'en 2021, les entreprises retrouvent la confiance et n'aient pas peur d'investir massivement. Et donc j'aurais, moi, plaidé, j'allais dire à côté ou à la place d'autres dispositifs, pour des subventions massives et générales sur l'investissement.
Alors je retiens, c'est tout, Christian. Je retiens que Laurent.
Je retiens moins d'impôts et plus de subventions. c'est quand même un.
Je
beau,
retiens
un
volet.
Bon profil,
ah, non, attendez, pour nos auditeurs, je retiens volet emploi réussi.
Oui, alors moi je trouve effectivement il y a deux bons points et il y a un bon point qui est l'activité partielle de longue durée, 7,6 milliards, hein, 60% est pris. Vous êtes un industriel, vous êtes un chef d'entreprise, vous dites dans l'année qui vient, je suis pas sûr, est-ce que je garde mes gens, est-ce que je garde pas mes gens. Avec ce dispositif, c'est 7,5 milliards, c'est très important. Vous avez 60% jusqu'à la fin du mois, 56% à partir du mois d'octobre, donc faut se dépêcher. Vous avez une partie de la charge salariale qui est prise en compte par le gouvernement, pris en charge par le gouvernement. Ça, je trouve que ça va dans le bon sens. Attention sur les aides à l'embauche, à l'apprentissage. Quand Jean Castex nous dit au moment de la conférence de presse de présentation du plan, un apprenti, ça coûte plus rien, embaucher. On voit tout de suite le risque. C'est, on va changer l'ordre dans la file du chômage. Au lieu de prendre un CDD ou un intérimaire, vous allez prendre un apprenti, mais c'est l'autre qui va aller au chômage. Donc attention. Et il y a le deuxième point qui est très important, c'est toutes les aides aux entreprises qui ont perdu beaucoup en termes d'exploitation. On va vous renforcer votre capital grâce à l'argent. Vous allez pouvoir reporter le paiement de fiscaux. Vous allez pouvoir reporter le paiement de prêts garantis par l'État. Ça, c'est vraiment deux choses très importantes qui vont dans le bon sens. Mais attention. Le Premier ministre nous dit, l'INSEE nous dit, on a perdu l'équivalent de 4 points de richesse. Ça fait 100 milliards. Et moi, je fais un plan de 100 milliards. J'ai tout rééquilibré l'économie. Ça va prendre un peu de temps, le temps que je décaisse, mais j'ai tout rééquilibré l'économie. Attention, 100 milliards sur 2 ans. Donc, ça fait plus 4 points de PIB, ça fait 2 points de PIB par an. Et attention, le gouvernement nous dit lui-même, Bercy nous dit lui-même, je vais avoir du mal à les dépenser ces 50 milliards. C'est plutôt 30 milliards. Donc, j'ai fait 4 points de PIB qui sont équivalents à ce qu'on a perdu, me voilà à 1,2. Les économistes nous ont expliqué depuis très longtemps, depuis Keynes, les années 30, qu'il y a un effet multiplicateur de la dépense publique. Quand l'État dépense 100, dans l'économie, ça va plutôt à 120, 130. Donc, on peut penser que ça va y avoir un petit peu d'effet de relance, mais insuffisamment par rapport à ce que le gouvernement nous dit. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'avec la promotion de tous les investissements qu'il y a, eh bien, on va être obligé d'importer des biens d'équipement. On nous dit, si je donne de l'argent aux ménages, ils vont acheter à l'étranger. Mais aux entreprises, si elles vont investir, elles vont aussi acheter à l'étranger. Donc, ça va aussi baisser la croissance. Et enfin, je dis un dernier
Allez-y.
Mot. C'est un soutien aux entreprises, comme si les entreprises n'avaient pas de clients. Moi, je conteste la présentation que vous avez faite, Alexandra, en disant l'aide par la demande, c'est l'aide aux ménages. Mais non, j'ai fait un petit calcul à la louche, hein, pardon, mais c'est vraiment du coin de table. Je calcule 25 milliards de commandes publiques. Ça, c'est de la demande, ça. C'est de l'investissement public. Plus 15 milliards pour l'emploi, comme l'a dit Laurent. Ça aussi, c'est de la demande. Donc, j'arrive à 25 plus 15, ça fait 40. 60-40, 60 pour l'offre et 40 pour la demande. Le problème...
Donc, vous pensez que c'est un plan qui n'est...
C'est un bon plan.
Il y a de la demande. Le problème, j'ai souligné les insuffisances avant, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a 800 millions pour les précaires. Or, les 100 milliards d'épargne des ménages, c'est pas les précaires qui l'ont, c'est plutôt les plus riches qui, à chaque fois qu'ils ont de l'épargne supplémentaire, vont la mettre de côté. Mmh. Alors que les plus précaires, vous leur donnez de l'argent directement, eux, ils vont le dépenser. Et ça, c'est vraiment un grand manque de ce plan.
Là, on est dans les trous dans le filet. Qu'en pensez-vous, Laurent Bigorgne? Est-ce qu'il y a des grands oubliés? Alors, vous avez parlé d'investissement. Oui. Christian parle des plus précaires, ceux qui sont pas salariés,
pourra,
ceux qui sont demandeurs d'emploi.
Il faudra toujours regarder la situation des plus précaires. Il y a énormément de filets sociaux. Pour moi, le problème n'est pas là. Ce qui est difficile dans le pilotage du plan, c'est qu'on vise deux objectifs à la fois. C'est-à-dire qu'il y a un objectif qui, pour moi, est essentiel et je pense qu'on est prêt de se retrouver. Il y a un objectif conjoncturel. Il faut que l'activité économique, du côté des ménages comme des entreprises, reparte le plus vite possible. Je suis pas sûr que tous les dispositifs, tels qu'ils sont imaginés ou conditionnés, vont permettre. Donc voilà, il y a deux objectifs qu'on vise. Moi, j'aurais préféré des mesures très générales. Je méfie énormément des mesures très administrées, des plans ceci, des plans cela, c'est-à-dire des micro-plans à l'intérieur du plan. C'est pour ça que j'étais en faveur plutôt de subventionner massivement l'investissement en étant très agnostique sur la nature de cet investissement. Et puis, je me méfie énormément du discours sur le conditionnement, parce que quand on parle de conditionnement, j'entends bureaucratie et non-exécution. C'est-à-dire qu'il y a un risque très très fort de non-exécution du plan. Maintenant...
Alors ça, c'est un gros débat. Allez-y.
Ouais, maintenant, ce qui a imité je suis vraiment, moi, sur le vert aux trois quarts plein. Il y a quelque chose que je regrette, c'est qu'on met un peu d'argent sur le numérique. Et pas assez, de mon point de vue. Alors, j'ai entendu Cédrico, je l'ai lu, il a dit on met 7 milliards dans le plan sur le numérique.
Le secrétaire d'État au numérique.
Exactement, c'est très bien. Pour moi, ce que révèle la crise, c'est le retard digital de la France. Et j'aurais aimé, par exemple, comme les Allemands, on se pose la question, par exemple, de la 5G. Les Allemands, dans leur plan, ils mettent 7 milliards sur la 5G, ouais, pour couvrir les zones qui sont des zones qui vont avoir un mal fou à être couvertes. Et donc, je trouve que ce plan,
s'il a un défaut, c'est qu'il prépare insuffisamment l'avenir du point de vue de la technologie et du numérique.
Christian, on va rebondir sur quand même le débat sur les conditions.
Ouais,
c'est
fait,
beaucoup d'argent. Alors, distribuez, vous nous dites finalement plus, enfin pour la demande, pour l'offre, bon ok. Oui. Mais les entreprises, on a déjà des parlementaires qui sont en train de réfléchir à créer des conditions sur l'environnement, peut-être, pour avoir accès à cet argent public. Ou...
Bon, vous c'est surtout sur la partie écologique où le gouvernement est complètement incohérent. Et où là, j'espère que l'Assemblée nationale, comme vous venez de le dire, va essayer de corriger ça. Le problème de la baisse des impôts de production, le problème de ce que Laurent Bigorne voudra avoir, c'est-à-dire des subventions générales massives à l'investissement, c'est que vous allez aider les entreprises qui en ont besoin et celles qui n'en ont pas besoin.
Mais peu
les
importe,
entreprises
il faut arriver
ultra
vite,
polluantes.
Christian.
Mais pourquoi distribuer
il faut aller vite.
Pardon, mais c'est mes impôts. Pourquoi distribuer de l'argent public à des gens qui n'en ont pas besoin
mais
tout
c'est
ça
aussi
pour améliorer.
Il faut, c'est vrai. Ce que je crains énormément, c'est que les mesures bureaucratiques, ça va prendre un temps fou, ce ne sera pas efficace. On a besoin que les entreprises investissent.
Je comprends bien que le patron de l'Institut Montaigne veut qu'on crache de l'argent, veux-tu en voilà pour toutes les entreprises sans professionnalité.
Mais ça existe.
Mais non, sur une période limitée.
Sur une période limitée. Avec un gros problème pour moi du côté écologique. Je le redis, les impôts de production, ça va aider les entreprises polluantes. Parmi les premiers secteurs, il y a les industries extractives. En même temps, le gouvernement nous signe des accords de libre-échange avec le Canada, les Mercosur, quand le Haut Conseil pour le climat nous dit c'est anti-écologique. Donc, est-ce que je fais écologique ou est-ce que je fais pas écologique? L'achat d'équipements pour répandre moins de pesticides. Pourquoi est-ce qu'on met pas cet argent pour aider les agriculteurs qui veulent sortir des pesticides? L'avion vert, on va améliorer la productivité technique et écologique des avions. Ça sert à rien. Le trafic explose. Pourquoi est-ce qu'on met pas cet argent pour réduire les mobilités? C'est ça qui va réduire l'expression de CO2. 2 milliards sur l'hydrogène vert, sur l'argent sur le plastique vert. Ça va coûter plus cher. Pourquoi il y a pas des aides aux ménages pour aller vers la transition
écologique? Donc c'est pas
écologique.
Le bon écologique dont parle Barbara.
Et un budget sur 2 ans. Et après 2 ans, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait sur le plan écologique? Les aides sur 2 ans, et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on se retrouve avec plus rien. C'est vraiment pas clair sur le plan écolo, et j'ajoute un dernier point. 40% de prépayés, nous dit le gouvernement par l'Europe. Attendez, on va voir mardi. Ce que nous dit le Parlement européen, on va voir mercredi ce que nous dit la Commission européenne. Pour l'instant, moi, ce que j'entends des couloirs de Bruxelles, c'est que pour dépenser l'argent européen, il faut mettre des impôts en face. Et ce que j'entends des couloirs de Bruxelles, c'est que sur les impôts, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc s'il n'y a pas d'impôts, s'il n'y a pas de recettes, il n'y aura pas de dépenses. Donc le 40% prépayé par l'Europe, pas évident.
Ah, Laurent. Je vais essayer d'aller très vite, mais si on cherche une cohérence écologique, la vraie cohérence, Christian, c'est d'imposer une taxe carbone. Parce que vos mesures de subvention vont faire que la tonne de carbone évitée...
Moi, j'ai pas de mesure de subvention.
Va coûter. Bah si, vous appelez au fond au subventionnement de quantités de technologies qui vont dans le sens du verdissement. La tonne de carbone évitée, elle est d'un prix considérable quand on fait ça. Moi, je pense que si on cherche la cohérence, il faut qu'on se mette d'accord à un moment ou à un autre sur des basculements d'assiette du point de vue fiscal et qu'on aille vers, évidemment, un gros mot qui est la taxe carbone.
Aux frontières, c'est ça dont vous parlez?
Oui, aux frontières, mais aussi chez nous. Chez nous. Si on veut basculer, changer de modèle, le changement de modèle, il requiert non pas un plan de relance, il requiert, j'allais dire, une vision sur la façon dont on impose la tonne de carbone.
Allez, j'ai une dernière.
Ce plan, c'est un plan pour la relance de l'activité, c'est ça qu'il faut garder en tête. Et c'est là où on peut pas ergoter.
Il va la relancer. Est-ce que quand on dit on aura rattrapé en 2022 l'activité de 2019, quand on dit il y aura eu 400 000 emplois, tout ça, on peut y croire? Et c'est bien, ça va assez vite, mais Christian. D'un mot.
Mais personne n'en sait rien. Les modèles économiques sont à la ramasse en ce moment parce que c'est pas les conditions habituelles. Et malheureusement, qu'est-ce que va faire le gouvernement? C'est réduire les aides personnalisées au logement, réduire l'assurance chômage, remettre la réforme des retraites qui est moins de dépenses avec plus de retraités, donc il va nous plomber le pouvoir d'achat.
Laurent?
On va dans la bonne direction. On va dans la bonne direction parce qu'on cherche à restaurer la compétitivité, la productivité des entreprises françaises. Et c'est de là que viendra la renaissance, me semble-t-il. Ensuite, ça ne dépend pas de nous parce qu'il y a un environnement européen international et je pense que le gouvernement reste aux aguets.
Laurent Bigorgne et Christian Chavagneux, les débatteurs du samedi. Alors vous savez messieurs que notre plan il intéresse au-delà de nos frontières. Par exemple, on a écouté ce qu'en disent nos voisins allemands et italiens.
Il primo ministro francese Jean Castex presenta il piano governativo per uscire dalla crisi economica successiva alla pandemia.
Die französische Regierung hat zur Stützung der Wirtschaft einen 100 Milliarden Euro schweren Plan bekannt gegeben.
Et nous voici d'abord à Berlin avec notre correspondant Ludovic Piétenu. Bonjour Ludovic.
Bonjour Alexandra.
Alors on vient de parler des choix du gouvernement français. Chez vous ces choix, on les a déjà faits, c'était il y a 3 mois. Vous en êtes où en Allemagne ?
Ah, c'était tout début juin, en effet, un plan de relance de 130 milliards d'euros pour le reste de cette année 2020 et 2021. Des mesures de soutien à l'économie, je vous les détaille notamment, et c'est ça qui coûte le plus cher à l'État, une baisse de la TVA jusqu'à la fin de l'année de 19 à 16% et de 7 à 5% pour la TVA réduite. Une aide financière pour les parents de 300 euros par enfant, une aide pour les communes, une aide pour l'automobile, plus de 10 milliards pour les hôpitaux, beaucoup a été fait aussi pour le secteur culturel, et puis une partie de cet argent est mobilisée pour l'avenir. Ils vont moderniser les infrastructures, développer le réseau 5G. C'est pas seulement un stimulus pour la demande et l'offre, mais aussi pour permettre au pays et à l'économie allemande de franchir un cap pour rester compétitif. C'est le cas notamment des aides au secteur automobile ou pour l'hydrogène, pour permettre au pays de gagner des points de croissance supplémentaires. Le résultat, Alexandra, selon les dernières prévision économique disponible là en cette fin d'été, montre que ce plan de relance devrait permettre d'amortir les 6% de chute du PIB attendue cette année, pourrait donc être quasiment entièrement compensé à la fin de l'année prochaine.
Donc on a compris, en Allemagne on a un plan avec quand même un gros coup de pouce temporaire, hein, Ludovic, c'est pour 6 mois je crois la baisse de la TVA.
Pour la baisse de la TVA,
ouais. Oui. Un gros coup de pouce aux consommateurs, un soutien à l'offre, c'est-à-dire aux entreprises quand même, et puis, ça rappelle la France, ça. Un plan pour prendre de l'avance, un plan de modernisation. Alors, on va aller voir maintenant à Rome ce qui se passe. Ciao, Burruj de Galzin.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant de France Inter en Italie. On le sait, le pays est très touché par la crise économique et il sera donc l'un des plus aidés par Bruxelles. Mais de l'argent pour quoi faire, Bruce? Ça, c'est la question, parce que Rome n'a toujours pas dévoilé son plan.
Et oui, c'est vrai. En Italie, on réfléchit encore à ce que l'on doit faire. Et même si le Palazzo Chigi, Matignon, ici, tente de rassurer, nous n'allons pas recycler des idées ou ressusciter des projets pour bien dépenser les fonds européens. Eh bien, concrètement, on avance peu. Ce qui s'est passé depuis la fin du confinement, en fait, ce sont beaucoup de dépenses pour relancer la consommation, des bonus vacances jusqu'à 500 euros, des bonus vélos également, et qui ont très bien marché, hein. Mais quid des investissements? Là, on cherche encore. Il faudra vérifier que l'argent public européen est bien utilisé, mais on attend donc que les priorités soient définies. Giuseppe Conte lui-même a déclaré que le gouvernement passerait le mois d'août à travailler sur cette question, mais nous sommes en septembre et pour l'instant, nous n'avons que de grandes lignes qui ont simplement été données. Investir dans le digital, oui, car l'Italie est en retard. Investir dans le sud du pays, qui en a bien besoin, dans le développement durable, dans les infrastructures et notamment le système de la santé. Enfin, seule certitude, hein, le plan sera présenté à la Commission européenne le 15 octobre, car c'est en grande partie l'Europe qui paye.
Bruce de Galzin à Rome et Ludovic Piétenu à Berlin, merci à vous. Allez, on va continuer à décortiquer les annonces sur la relance. Que peuvent-elles changer à la stratégie d'un industriel? Faut-il croire aux relocalisations? Le patron de Sanofi en France, Olivier Bogillot, sera avec nous dans 10 minutes. Mais d'abord, on va remonter la piste des autres 100 milliards. Mais oui, vous savez, cette épargne record que des Français ont accumulée depuis mars et qui suscite beaucoup de convoitises. L'enquête de notre reporter Claire Chaudière démarre à l'ouest de Paris. On arrive bien, on arrive à l'heure du café, à Chatou, chez Marc-Antoine.
Vous allez bien?
Ça va.
Merci de m'accueillir.
Bon, je vous en prie, rentrez. Hop, long tour.
Long, s'il vous plaît.
On va se mettre au bureau là-haut, parce que je suppose que vous aurez besoin d'infos précises. Mais posez-vous là.
Au bureau, hop.
Voilà moi comment je tiens mes comptes. Je transfère mes relevés de banque sur un tableur Excel et puis après je les classe par rubrique. Vous allez voir. Alors là vous avez les dépenses au moins le mois courantes classiques. Donc jusqu'au 16 mars, vous avez les dépenses normales. La dernière dépense du 16 mars, bah, c'est un retrait de 20 euros. Et puis à partir du 16 mars, vous n'avez plus que des dépenses alimentaires. Carrefour, métro ou le géant casino, voilà, c'est tout. Le mois d'avril, il tient sur 20 lignes, c'est-à-dire qu'il tient sur le tiers à peu près de ce qu'il y a en dépenses normales. Il n'y a plus aucune sortie, plus aucun déjeuner extérieur. Je suis un fanat de concerts et d'opéra. On écoute les DVD qu'on a à la maison ou les CD qu'on a à la maison et puis ça s'arrête là. Donc il reste que le fonctionnement courant, l'eau, le gaz, l'électricité et puis l'alimentaire. Du coup, mécaniquement, pour les gens de ma catégorie sociale, on a fait des économies. Et c'est comme ça que vous arrivez à un budget, une dépense sur le mois d'avril qui est de 1477,47 €, c'est-à-dire à peu près un bon millier d'euros de moins qu'un mois normal. Voilà.
Donc on va suivre ce que sont devenus ces non-dépenses sur votre tableau Excel.
C'est assez simple, je vais vous montrer.
Ah, vous allez sur le site de votre banque.
Ah, bon, c'est là que tout commence et que tout finit, comme dirait l'autre.
Le cri du cœur. Alors, si on veut être précis, il y a plus de 85 milliards d'épargne exceptionnelle qui ont fini à la banque depuis mars dernier. Et si vous ajoutez à ça le cash, ça fait une enveloppe rebondie de 107 milliards 500 millions d'euros. Ce bas de laine qui mérite le Guinness, Marc-Antoine en possède donc un bout. Lui, l'ancien cadre de chez Thalès, tout juste retraité, avec une pension bien au-dessus de la moyenne. C'est ça le profil de ceux qui ont mis de côté depuis mars. Ce sont des ménages aisés, 40% des ménages les plus aisés, que l'on trouve en région parisienne ou dans les grandes agglomérations, et qui aujourd'hui ne dépensent pas volontiers. Allez, retour devant l'ordinateur de Marc-Antoine, un homme qui tient ses comptes et qui veut bien les montrer, en tout cas à Claire Chaudière.
Alors, toute l'économie involontaire, elle est pour le moment sur le compte chèque. Et puis.
Donc, et ça, ça a gonflé par rapport à il y a quelques mois.
Ah, oui. Ah, bah ça, c'est sûr. Par rapport au début de l'année, il y a 6-7 000 euros de plus. On est un peu dans l'expectative. Grosso modo, on s'attend à un deuxième choc. Si vous regardez mes copains, moi je suis à l'aéronautique, espace et défense, mes copains de chez Airbus, ils sont traumatisés. Parce qu'ils avaient 10 ans de carnet de commandes, parce qu'ils avaient de l'activité, et aujourd'hui, ils tournent à 35% de leur activité. Donc, comme on ne sait pas comment ça va tourner, on ne réinjecte pas l'économie qu'on a faite dans la dépense courante, on la garde plutôt en forme de poire pour la soif, avant d'avoir une visibilité sur ce qui va se passer.
Alors même qu'en termes de sécurité de l'emploi, là, vous n'avez pas, vous, de gros enjeux, on est d'accord?
Non, je n'ai pas de gros enjeux. Alors ma compagne, elle en a par contre, parce qu'elle est travailleur indépendant, et là, d'un seul coup d'un seul, son activité à elle s'est complètement écroulée. Donc ça veut dire que derrière, je vais devoir assumer peut-être pour deux au lieu d'un. Et ce que je regarde, alors j'ai fait les comptes de juin-juillet, je n'ai pas encore fait ceux d'août, je n'ai pas encore toutes les billes, on n'est pas remonté au niveau de dépenses qu'il y avait avant le confinement. C'est-à-dire que les sorties n'ont pas repris comme elles devaient reprendre. Et en habillement, j'ai zéro dépense depuis le début de l'année. Alors qu'à l'habitude, on fait quand même toujours un peu le tour des boutiques pour se prendre le petit t-shirt qui va bien. On n'a pas repris nos habitudes dans les magasins. On s'était habitué à vivre comme ça, quoi, grosso modo.
D'un côté, il y a donc Marc-Antoine, les yeux rivés sur la courbe de ses comptes. Et de l'autre côté de l'écran, le secteur bancaire observe attentivement également les chiffres des dépôts à vue des clients français. Ceux du livret A qui ne cessent de monter, 20 milliards d'euros placés depuis le début de l'année. Mais aussi et surtout toute une série d'indicateurs concernant la consommation des ménages.
BNP Paribas, premier et deuxième étage.
Donc Hélène Beauchamp, économiste spécialiste de la France à la recherche économique groupe BNP Paribas. C'est visuellement impressionnant. L'INSEE publie des données en mensuel. Et sur les mois de mars et avril, donc la consommation des ménages en biens s'est littéralement écroulée et elle est revenue à son niveau de la fin des années 80. En deux mois, on perd genre 30 ans de consommation en biens. Comme la consommation des ménages, par ailleurs, et la composante la plus importante du PIB français, c'est environ la moitié du PIB français, donc on comprend qu'il y a des enjeux importants. La question de la consommation des ménages est au centre du débat, au centre des incertitudes aussi. Toute la question et tout l'enjeu d'ailleurs, c'est de faire en sorte que la plus grande partie de cette épargne forcée soit néanmoins réinjectée, donc trouver les bonnes incitations économiques, et surtout faire en sorte que la situation sanitaire et la situation sur le marché du travail inspire suffisamment confiance pour que tout un chacun, je dirais essentiellement, on va dire la classe moyenne au sens le plus large possible, se sente suffisamment en confiance pour venir puiser dans cette épargne forcée et qu'elle ne la transforme pas en épargne de précaution.
Eh bien, au plaisir.
Merci.
À une autre fois.
Au revoir.
Au revoir.
Alors comment aller chercher cette épargne si cruciale, cette manne qui constitue un potentiel de consommation? Le gouvernement y réfléchit, mais aussi les acteurs économiques, les entreprises, les marques qui phosphorent cette rentrée sur les bons messages à adresser à leurs clients. Dans l'immense bâtiment industriel réaménagé par l'agence de publicité BETC à Pantin en région parisienne, on y travaille, on prépare même les catalogues en vue du 25 décembre prochain. Mais la tâche est loin d'être évidente.
Alors voilà, on rentre ici dans ce qu'on appelle le garage. Il y a des bancs de montage et il y a des films en cours. Donc vous pouvez voir avec joie que ça a repris. On va descendre à la prod en bas avant okay. La partie shooting.
On a un studio photo en fait au rez-de-chaussée.
Donc ce qui est chouette, c'est que
c'est Noël. Vous voyez, comme le sapin semble vous le dire, ça va être Noël.
Génial.
Je m'appelle Bertie Toledano et je suis présidente de BETC. Tout le monde a besoin de reprise économique, tout le monde a besoin de relance. Et en même temps, cette relance, elle tarde à venir parce qu'on est tous un peu déstabilisés. Il y a des marchés qui sont devenus ce qu'on appelle des marchés quasi d'utilité publique. Je pense à la grande distribution qui a été extrêmement active pendant toute cette période avec beaucoup de pression sur les prix. Et là, en termes de pouvoir d'achat, on a quand même eu beaucoup de chômage partiel d'activité avec des niveaux de revenus qui ont perdu parfois 16%. Donc, ce qu'on observe dans la grande distribution, par exemple, c'est finalement une perte du marché frais à partir du 20 du mois. C'est-à-dire les gens ne consomment plus de viande et de poisson à partir du 20 du mois. On a vécu à travers cette crise un truc très, très paradoxal, c'est qu'il y a eu une remise en question. On a vu des mouvements comme Greenpeace, mais pas que. Il y a eu des rapports de députés, il y a eu des sur la consommation. Est-ce qu'on doit continuer à consommer? Est-ce qu'on n'est pas en surconsommation, etc. On peut essayer de déterminer en fait un certain type de consommation qui va dans le sens d'une transformation dans la société telle qu'on aimerait la dessiner, c'est-à-dire plus durable et plus responsable. Mais il ne faut pas se tromper, les gens ne reconsommeront que s'ils ont un peu confiance. C'est-à-dire que si on leur propose des choses qui ont du sens, qui sont utiles, et qu'ils ont un peu confiance dans ce qui est en train de se construire. Parce que sinon, ils garderont quand même de toute manière un matelas, entre guillemets, pour faire face aux difficultés.
Mais toutes ces économies dormantes ont aussi déclenché un autre débat. Elles donnent ou redonnent des idées à tous ceux qui prônent une réorientation de l'épargne des Français via de nouveaux outils financiers. Un mouvement ancien qui reprend de la vigueur et que Philippe Crevel, le directeur de l'Institut de recherche et think tank Le Cercle de l'Épargne, voit ressurgir avec scepticisme.
Le concours de l'épine du nouveau produit de l'épargne visant à réorienter cette fameuse cagnotte de 100 milliards, oui, est lancé. On veut agir sur le comportement de l'épargnant en disant que l'épargnant n'est pas rationnel pour lui-même, pour son pays, etc. Et donc il y a un petit côté d'infantilisation de l'épargnant, moi que je n'aime pas trop. En matière d'épargne, on ne manque pas de produits en France. Le livret A, le livret développement durable, le livret jeune, le livret d'épargne populaire, l'assurance vie, le PEA, le PEA PME, le plan d'épargne retraite qui vient d'être créé par la loi Pacte. Lancer un emprunt obligatoire ou lancer un nouveau livret au moment où les taux d'intérêt sont négatifs, soit on décide de mettre un taux d'intérêt négatif et l'épargnant ne va pas répondre présent, soit on va mettre un taux d'intérêt positif et ça va coûter plus cher à l'État. Donc je ne vois pas tellement l'intérêt, justement, de faire un produit supplémentaire qui sera une source de complications. Puis, il y a quand même un aspect important qui est primordial. C'est ce que souhaitent en faire les Français. Et c'est assez légitime, parfois, d'avoir de l'épargne. Pourquoi ils ont cette épargne? Parce qu'ils craignent une perte de revenus, ils craignent le chômage, ils craignent pour leur santé, ils craignent pour leur retraite. Ils ont peur.
L'épargne des Français, ces autres 100 milliards clés pour le redémarrage, c'était le reportage de Claire Chaudière.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et on va parler du remède à toutes ces inquiétudes qui s'appelle l'économie. Évidemment, c'est le vaccin. Bonjour Olivier Bougillot.
Bonjour.
Vous êtes le président de Sanofi en France. Sanofi en France, c'est 25 000 salariés, 18 usines.
Absolument. Et 4 centres de distribution, 4 centres de R&D.
Et dans le monde?
Dans le monde, c'est 100 000 personnes, c'est 70 usines et 40 en Europe.
Sanofi vient de lancer les tests sur l'homme. Si tout va bien, votre vaccin serait prêt mi-2021. Ça va très vite. Bon, Donald Trump, lui, il prépare le pays à une distribution le 1er novembre.
La veille des élections, effectivement.
Qu'on y croit ou pas, le vaccin français risque de ne pas être le premier. Est-ce que dans cette course au vaccin mondial, cette compétition, c'est grave de ne pas être le premier?
Non, pas du tout. Pas du tout, parce que vous savez qu'il va falloir vacciner des millions, voire des milliards de personnes. Et donc, il va falloir plusieurs fournisseurs de vaccins qui sont capables de produire des millions et des millions de doses. Et donc, des laboratoires concurrents sortent avant nous, c'est pas un problème. On arrivera juste après et on arrivera pour fournir, nous aussi, des centaines de millions de doses de vaccins.
Qu'est-ce qui fera la différence?
Entre les différents laboratoires?
Entre les différents vaccins?
Entre les différents vaccins, tous les vaccins, alors on utilise des technologies différentes, chaque laboratoire s'est lancé dans cette course-poursuite avec des technologies différentes. Nous, on utilise une technologie qu'on maîtrise bien puisque c'est pour notre vaccin grippe, donc Ce qui fera la différence, c'est est-ce qu'ils sont efficaces, est-ce qu'ils sont bien tolérés.
Les effets secondaires.
Les effets secondaires, vous savez, quand on injecte un vaccin à quelqu'un qui va bien. Donc on souhaite que la vaccination soit faite en parfaite sécurité. C'est pour ça qu'on va vite, mais on fait quand même attention à ce qu'on fait.
On espère, oui. L'autre question, c'est qui aura accès en premier au vaccin? Alors, il y a quelques mois, il y a eu une polémique avec le patron de Sanofi. On a compris que les États-Unis mettaient le paquet pour avoir le vaccin en premier, que Sanofi y était sensible. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les Européens, les Français, Olivier Bogio, ils peuvent être complètement rassurés?
Ah oui, bien sûr, ils peuvent être rassurés. D'ailleurs, c'était une polémique qui était un petit peu injuste. Il y avait effectivement la nécessité de mobiliser l'Europe et la France sur ce qui était en train de se passer aux États-Unis. Les Américains ont investi très rapidement dans une forme de partage de risque en disant « nous, on va investir chez vous et vous allez nous permettre d'avoir un vaccin pour la population américaine ». Les Européens sont rentrés très rapidement aussi dans la discussion. Nous, on a signé au cours de l'été avec les Américains, la même semaine avec les Européens et avec les Britanniques.
Pour combien de doses?
Alors, pour 300 millions de doses en Europe, pour environ 100 millions de doses aux États-Unis. Donc voilà, les Français et les Européens auront le vaccin de Sanofi et au même moment que les patients américains.
À quel prix?
Alors, le prix est pas encore totalement défini puisqu'on n'est même pas encore totalement sûr de notre dose. Donc, on est en train de mesurer l'ensemble des coûts de production qui vont être les nôtres dans les mois qui viennent. Mais l'idée de ce partage de risque avec les États, c'est justement pour avoir un point de sortie en termes de prix qui soit le plus faible possible.
Mais on parle de combien? On est sûr?
On sera moins de 10 euros.
Moins de 10 euros, bon, mais d'autres seront peut-être à 2.
Alors, AstraZeneca a annoncé qu'ils auraient la possibilité d'avoir un vaccin autour de 2,50 €. Mais la différence de prix peut être, pour nous par exemple, le fait qu'on utilise toutes nos ressources en interne. Ce sont nos propres chercheurs, nos propres usines, nos propres centres de recherche et développement qui vont être mobilisés pour construire ce vaccin. AstraZeneca a beaucoup sous-traité en fait une partie de sa production.
Et ce vaccin qui bénéficiera aux Français, c'est le vaccin Sanofi. Bon, si en effet, tout marche jusqu'à la phase 3, il sera fabriqué où?
Alors il sera fabriqué pour la plaque européenne, il sera fabriqué en France. Pas très loin d'ici, à Vitry, on a une
cuve. Ça, c'est une information.
Ouais, on a une cuve de culture cellulaire qui a été mobilisée jusqu'à présent pour des anticorps monoclonaux. Donc, on a arrêté cette production-là temporairement. On a réalloué une partie de nos ressources. Et l'idée, c'est effectivement qu'on utilise ce centre pour pouvoir produire notre antigène sur le vaccin. J'ajoute aussi, et je voudrais, c'est passé un élément important, Sanofi n'est pas tout seul. On s'est associé avec un de nos concurrents, qui est GSK, pour accélérer et faire en sorte que ce vaccin soit plus efficace. C'est pas quelque chose de commun de s'associer avec un concurrent. Et je trouve que c'est plutôt sain guerre contre le Covid.
On vit une période quand même assez qui en effet bouleverse toutes les habitudes. En tout cas, quand Emmanuel Macron était venu dans votre usine près de Lyon, il avait émis l'idée que le vaccin, ça devait être un bien commun mondial. Là, ce qu'on comprend, c'est que elle a été enterrée, cette idée?
Non,
elle est
pas
oubliée?
Pas du tout, parce que dans les accords qu'on a signés cet été avec les États-Unis, l'Angleterre ou l'Europe, il y a des éléments sur lesquels on s'engage pour l'ensemble des autres pays. C'est-à-dire qu'on travaille avec CEPI, par exemple, qui est la structure qui travaille pour la plupart des pays en développement. Et on s'engagera, nous, à fournir des millions de doses aussi pour ces pays-là, à des conditions tarifaires qui sont totalement exceptionnelles.
L'actualité, Olivier Bogio, c'est bien sûr le plan de relance. On en a parlé tout au début de cette émission, pendant 45 minutes. Bon, concrètement, ce plan de relance, il change quoi pour l'industriel Sanofi?
Alors, il change déjà des choses pour l'industrie, les industries de santé au sens large. J'écoutais votre débat avant sur les impôts de production, notamment, donc les 10 milliards qui sont injectés, enfin en tout cas qui vont diminuer. Je rappelle que les industries de santé en France, et notamment dans le médicament, c'est 75% de PME ETI. Et le fléchage de la baisse des impôts de production va bénéficier plutôt à ce secteur-là. On pense souvent grand groupe quand on pense industrie pharmaceutique, mais il y a beaucoup de PME, beaucoup d'ETI, et pour elles, ça va être quelque chose de très 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 intéressant.
Mais si on parle de Sanofi en particulier, évidemment, le chef de l'État, il défend ce mot de relocalisation, l'industrie du médicament, filière stratégique, vous êtes le champion. La relocalisation, est-ce que vous allez mettre la première pierre de cette usine de principes actifs, par
alors,
exemple?
Alors, vous avez dû voir, parce que vous suivez l'actualité économique, Avant cette crise, Sanofi a annoncé le 24 février dernier, donc c'était avant toute cette crise autour du Covid, la création d'un leader européen, voire mondial, sur les principes actifs. Donc on va mobiliser 6 de nos usines qui travaillent pour Sanofi, mais qui travaillent aussi pour des tiers, qui travaillaient pour des tiers, pour en faire un nouveau géant. Et en fait, si on regardait, si cette entreprise existait déjà, elle serait numéro 2 mondial, déjà. Mmh. Et on va essayer de la faire, de la lancer sur le marché. On va faire une IPO avec cette...
Une introduction en bourse.
Une introduction en bourse dans les mois qui viennent. Et l'idée, c'est de faire, au niveau européen, un champion des principes actifs.
Mais, alors ça, je comprends que c'était déjà lancé. Donc,
c'était
le plan de relance
chez
Sanofi, il change quoi comme mentalité? On a compris, si vous voulez, que les labos, ils étaient partis en Asie parce qu'il y avait le coût du travail, mais aussi parce que les normes sociales du travail étaient plus souples, on va dire, et les normes environnementales. Est-ce qu'un plan de relance comme ça, quand on vous dit, les autorisations mises sur le marché, enfin, les autorisations, ça sera plus facile, quand on vous dit, vous paierez un peu moins à la Sécu, ça va faire quelque chose?
Alors, sur la partie relocalisation, donc je vous ai parlé de cette structure, mais donc dans le plan, il y a en gros 1 milliard d'investissement sur de la relocalisation, en tout cas sur des grandes filières industrielles, 600 millions qui vont être fléchés, notamment sur la santé. Quand le président de la République, qui a fait une visite récemment dans l'entreprise Sequence, indique qu'il veut faire de la relocalisation, c'est avant tout d'abord pour des questions de souveraineté. On s'est rendu compte... Même avant cette crise, qu'on avait une dépendance sur la Chine et l'Inde.
Donc, ce que je vous demande, c'est qu'est-ce que ça change à votre stratégie? Par exemple, vous avez annoncé, avant tout ça, 1 millier de suppressions d'emplois. Est-ce que ça change quelque chose à votre plan de suppression d'emplois annoncé en juin?
Alors, la suppression d'emplois qui a été faite, c'est d'abord un plan de départ volontaire, parce que Paul Hudson, le nouveau président de Sanofi, a décidé d'investir dans les secteurs à forte valeur ajoutée où lorsqu'on produit un médicament, on produit un médicament qui apporte vraiment quelque chose de très supérieur pour le patient. Et on s'est rendu compte qu'on avait aussi dans notre portefeuille des aires thérapeutiques où c'était pas le cas, où on faisait de la recherche sur des produits qui vraisemblablement n'allaient pas apporter une différence. Il a décidé d'arrêter ces secteurs-là pour réinvestir là où on va apporter vraiment quelque chose. Donc ça va pas changer grand-chose. Par contre, l'investissement et presque le changement politique qu'il y a sur la relocalisation, ça c'est un vrai changement. Parce que si on est capable de faire revenir un certain nombre de principes actifs, de maintenir un tissu industriel sur le territoire européen, c'est un changement de philosophie. On a toujours été perçu sur les 15 dernières années comme une dépense. Mmh. L'industrie pharmaceutique, l'industrie des dispositifs médicaux était perçue comme une dépense.
Mais ce que je vois, c'est que ça va... Oui.
Et là, on repart sur une logique d'investissement stratégique sur un secteur à forte valeur ajoutée.
Olivier Beaugillot, il y a tout ce débat sur les entreprises, et notamment les industriels, vont bénéficier de beaucoup d'argent public avec ce plan de relance. Les parlementaires veulent mettre des conditions. Ça peut être sur le salaire. Vous êtes une entreprise qui va bien, hein. J'ai oublié de le dire, mais 4 milliards de dividendes, une des seules sociétés du CAC 40, il y en a 5 sur 40 qui sont dans le vert aujourd'hui.
Et c'est très bien.
Le coronavirus vous porte. Est-ce que vous acceptez, est-ce que vous êtes prêt à des conditions pour toucher cet argent public?
Ah, mais vous savez, nous, on répond à la aux appels à manifestation d'intérêt. Quand les pouvoirs publics se retournent vers Sanofi, d'abord c'est bien. C'est bien qu'on ait au sein de la France un laboratoire pharmaceutique de taille mondiale qui va bien, parce que ça nous permet, comme on a pu le voir dans la crise, de mobiliser des usines, de mobiliser nos chercheurs. C'est quand même utile d'avoir un laboratoire comme Sanofi.
Mais les conditions, allez en un mot, c'est fini.
Les conditions qu'on pourrait mettre pour avoir davantage d'investissement, sont réunis, nous, pour qu'on puisse répondre à certaines manifestations d'intérêt. On veut relocaliser du paracétamol, on veut relocaliser des antibiotiques. Donc, on compte sur cet investissement.
Je crois qu'on a compris la réponse. Olivier Beaugillot, le président de Sanofi France, je vous remercie d'avoir été sur France Inter. Sandrine Foulon, une question de Clément. Clément, il s'interroge sur ses patrons qui aujourd'hui déclarent leur entreprise en faillite, puis la reprennent. Bon, il parle de qui, Clément?
Clément a lu la presse. Lui, Alexandra, il fait allusion aux dirigeants d'Orchestra Prémaman, de Camailleux, d'Alinéa, qui peuvent être candidats à la reprise de leur propre entreprise en dépôt de bilan. Jusqu'à présent, c'est vrai, un employeur ne pouvait pas, sauf rare dérogation, racheter son entreprise pendant une période de 5 ans. Le code du commerce était très clair. L'objectif était d'empêcher qu'un mauvais gestionnaire actionnaire qui a conduit son entreprise à la faillite ne puisse ensuite la reprendre à moindre frais. Mais voilà, depuis l'ordonnance du 20 mai, le gouvernement a considéré qu'il fallait à tout prix éteindre l'incendie et sauver les emplois. Donc oui, un dirigeant peut se retrouver aux manettes de sa propre société avec une dette et des salariés en moins. Mmh. Il évite un plan social coûteux. Donc oui, encore, cyniquement, Clément, on peut dire que certains dirigeants vont s'en tirer à bon compte, surtout ceux dont les finances n'allaient déjà pas très fort avant le Covid. Tout l'enjeu est de faire un tri entre les entreprises qui subissent de plein fouet la crise économique et les plus malines qui pourraient en profiter.
Mais qui peut faire ce tri, Sandrine ? Dans sa question, Clément nous dit aussi que donner un tel coup de pouce à des entreprises qui allaient de toute façon mourir, c'est reculer pour mieux sauter.
C'est effectivement un risque, mais celui qui fait ce choix, c'est le tribunal de commerce. Il examine toutes les offres de reprise. Son rôle est de se prononcer pour la solution la plus solide et la mieux disante socialement. On l'a vu en août avec l'enseigne de puériculture Orchestra Prémaman. Le fondateur l'a emporté face à un repreneur saoudien. Les dirigeants de Camailleux, eux, sont repartis bredouille. L'offre concurrente de la financière immobilière bordelaise sauvait plus d'emplois. Elle avait en plus la faveur des salariés. C'est elle qui a été désignée. Encore faut-il pouvoir choisir entre plusieurs propositions. Ce lundi, le tribunal de commerce de Marseille examinait l'offre de reprise de la famille Muliez, propriétaire de l'enseigne d'ameublement Alinéa, la seule en lice. Les juges devront faire un choix cornélien entre sauver à peine la moitié des emplois ou les condamner tous. Les salariés d'Alinéa seront fixés dans 10 jours. Avec la hausse des faillites attendues, ce genre de cas de figure risque de se représenter, sans garantie, Clément, que les anciens nouveaux propriétaires soient plus judicieux dans leur choix de gestion.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot, vous pouvez lui écrire, poser vos questions sur le site de l'émission. Ça se passe sur franceinter.fr et sur Twitter. Vous pouvez aussi réécouter l'émission en podcast. Vous pouvez retrouver des extraits de l'émission de notre invité Olivier Bogillot, le président de Sanofi France, sur les réseaux. Eh bien, toute l'équipe vous souhaite un excellent week-end et je vous donne rendez-vous samedi prochain, même jour, même heure.